We welcome you from around the world.
Nous souhaitons la bienvenue dans le monde entier pour une nouvelle émission de formation mondiale des dirigeants diffusée par satellite depuis Salt Lake City en Utah. Notre thème est l'enseignement et l'apprentissage de l'évangile de Jésus-Christ des cinq derniers jours en classe et au foyer. Nous dirigeants, instructeurs, missionnaires et parents avons tous reçu du Seigneur la tâche d'enseigner et d'apprendre pendant toute notre vie la doctrine de l'évangile telle qu'elle nous a été révélée. Nous commencerons par une courte conversation entre frère Tom Perry et moi à propos des principes qui sont à la base d'un bon enseignement. J'ai pour tâche de parler de quelques expériences personnelles qui m'ont beaucoup instruit sur l'enseignement et l'apprentissage. Si vous regardez, écoutez attentivement, vous remarquerez que pour être un bon instructeur, il faut être aussi un élève bien disposé. Notre conversation sera suivie d'une interview et d'une intervention de Jeffrey Holland qui nous apprendra à nous préparer à enseigner. Il ira ensuite dans une classe d'élèves pour donner un exemple d'enseignement en classe. Chaque membre du Collège des 12 apôtres aurait pu faire efficacement cette démonstration. La méthode de chacun aurait été différente de celle des autres. Il n'y en a pas qu'une qui fonctionne pour tous les instructeurs ou dans tous les cas. L'esprit est essentiel pour nous guider, pour utiliser notre préparation, notre expérience, notre personnalité, notre connaissance et notre témoignage personnel dans chaque situation particulière. Après les paroles de Frère Holland, nous ferons une courte pause de 5 minutes.
Président, vous avez écrit un livre intitulé « Teach Diligently ». Pour tous les appels dans l'Église, il faut être un instructeur efficace. C'est notre appel le plus important. Pouvons-nous parler quelques minutes de l'enseignement diligent que nous devons dispenser dans nos différents appels dans l'Église?
J'ai été nommé superviseur du séminaire et je ne savais rien. Mais j'étais nommé, puis employé, et payé, plus ou moins, pour aller dans l'église dire aux instructeurs de séminaire comment enseigner, et ce qu'ils ne faisaient pas bien. C'était très embarrassant, parce qu'il fallait aller dans une classe, voir l'instructeur faire quelque chose, et le corriger, alors que je savais que je faisais la même chose que lui chaque fois que j'enseignais. Et j'avais appris quelque chose à ce sujet. Et Frère Lee et Frère Romney enseignaient tout le temps. Ils faisaient l'effort, dans un certain sens, de me parler ou de m'instruire. Ils faisaient beaucoup d'efforts. Je crois que la raison pour laquelle ils le faisaient, car je ne suis pas sûr qu'ils auraient jamais pensé que j'aurais l'appel actuel, c'est parce que j'avais une qualité. Je voulais apprendre. Et le remarque ne me dérangeait pas. Et si cela ne vous dérange pas, si vous voulez apprendre, le Seigneur vous instruira. Vous enseignera parfois des choses que vous ne pensiez pas vraiment vouloir savoir. Ces deux grands enseignants m'instruisaient. Quand je voyais Frère Romney, parfois il me disait, « Mon garçon, je vais vous dire quelque chose. » Je savais ce qui m'attendait. Il allait me dire ce que je faisais, ce qu'il ne fallait pas, et je remerciais toujours. J'ai appris de bonne heure qu'il est très utile d'écouter l'expérience des gens plus âgés. Un de mes présidents de pieux a dit un jour, je me suis toujours efforcé d'être en présence de personnes de valeur. Il habitait dans une petite ville d'Idaho, mais il a dit, si un conférencier venait ou s'il y avait quelque chose de particulier, j'essayais toujours d'y aller parce que je pourrais apprendre. Et j'ai toujours voulu fréquenter des personnes plus âgées. Maintenant, j'en suis une moi-même. Je me souviens que dans le Collège des 12, le grand Richards ne marchait pas aussi vite que les autres frères. Je l'attendais toujours pour lui ouvrir la porte et retourner au bâtiment avec lui. Un jour, un des frères m'a dit, « C'est vraiment gentil de vous occuper de Frère Richards. » Je me suis dit, « Vous ne connaissez pas mon but égoïste. » Parce qu'en revenant, je l'écoutais. Je savais qu'il se souvenait de Wilford Woodruff. Il parlait de lui. L'enseignement en tête-à-tête a une grande force. Généralement, l'enseignement en tête-à-tête est ce qui se produit quand on s'est corrigé. Voici un autre principe d'enseignement. Levez-vous tôt. La partie agréable ou la partie difficile, par contre, c'est de se mettre au lit, puis de réfléchir le matin quand on a l'esprit clair. C'est à ce moment que viennent les idées pour enseigner. Je ne sais pas à quelle fréquence, ce n'est pas depuis hier, il m'arrive d'avoir une tâche et ne pas savoir ce qu'il faut faire. Ça m'est arrivé dans une réunion d'autorité générale. Je savais que j'allais parler en premier et je me demandais ce que j'allais dire. J'étais confiant que ça allait venir. Et c'est venu. Vous étiez là.
Est-il important d'utiliser les Écritures quand vous enseignez?
J'ai toujours appuyé sur les Écritures. Le meilleur exemple d'enseignement et de la manière d'enseigner, le meilleur modèle de méthode d'enseignement, mis à part le sujet, qui est l'Évangile, est le Seigneur et son enseignement. C'est pour cela que je n'aime pas aller à la chaire ou me tenir devant une classe sans avoir mes Écritures à la main. Je les ai aujourd'hui pour pouvoir répondre à toutes vos questions.
Président, vous avez toujours ces Écritures avec vous. Chaque fois que je me suis trouvé avec vous, vous aviez ces Écritures. Un jour, vous nous avez raconté qu'elles ont été mouillées et que cela leur a fait du bien parce que vous pouvez trouver les pages plus rapidement. Comment utilisez-vous ces Écritures pour enseigner?
Oui, j'étudiais dehors sur la pelouse. On m'a appelé et j'ai laissé mes Écritures ouvertes sur la petite table. Je les ai oubliées, comme cela arrive aux personnes âgées. Et l'arrosage s'est mis en route. Je suis sorti le matin en me disant, mes Écritures que j'annote depuis 50 ans sont perdues. Je me suis aperçu que ça n'avait fait qu'assouplir les pages. Je crois que si je devais acheter de nouvelles Écritures, je les mettrais sous la pluie avant de commencer à les utiliser.
Les gens nous parlent toujours des Écritures et certains de la difficulté à les étudier. Comment arrivez-vous à leur donner vie dans votre enseignement?
En les étudiant et lisant continuellement. Si vous lisez le livre de Mormon, par exemple, je me souviens quand j'ai décidé que j'allais lire le livre de Mormon. J'étais adolescent. Je l'ai ouvert et j'ai lu moi, Néphi, étant de mon parent. Et j'ai continué de lire les chapitres et j'apprenais. C'était intéressant. Je me suis tenu jusqu'à ce que j'arrive au chapitre d'Ésaïe et au langage des prophètes de l'Ancien Testament. Quelques mois plus tard, j'ai décidé à nouveau de lire le livre de Mormon. Moi, Néphi, étant né de bons parents, mais chaque fois je me heurtais à l'obstacle de ce chapitre d'Ésaïe. Et je me demandais pourquoi ils étaient là. Finalement, j'ai décidé de les lire. Donc, quand j'étais adolescent, j'ai dû regarder les mots. Je ne les comprenais pas, mais je pouvais tourner les pages et avancer. Quand on arrive à Alma, on est sorti d'affaire. Il faut donc être déterminé à lire ce chapitre. Pas seulement y glaner quelques idées, ici et là, mais les lire d'un bout à l'autre. Le livre de Mormon, le Nouveau Testament, les Doctrines et Alliances, la Perle de Grand Prix. Et pendant des années, j'ai pris l'habitude de lire les Écritures chaque été, quand nous avions un peu de temps, pour me rafraîchir la mémoire.
Quel conseil donneriez-vous aux nouveaux convertis avant leur premier appel d'instructeur?
Je leur dirais qu'ils peuvent réussir. Tout le monde peut enseigner. Je leur commanderais de prier pour avoir le don de l'enseignement. Vous savez, le livre de Mormon parle de dons et souligne plusieurs dons. Entre autres, celui d'enseigner l'Évangile selon l'Esprit. Quand j'ai lu cela il y a des années, je me suis dit, c'est un don que je veux, être capable d'enseigner selon l'Esprit. J'ai trouvé dans les Écritures qu'il faut le demander. Demandez et vous recevrez. Alors je dirais à quelqu'un de demander continuellement, et s'il cherche, il trouvera. Et le don se mérite, mais on peut le recevoir.
Que doivent faire les instructeurs pour s'assurer d'avoir l'esprit dans leur enseignement?
Il faut mener une vie digne. Il faut demander de l'aide. Et vous pouvez demander de l'aide si vous êtes parents, le mari et la femme peuvent se parler. Et puis, il faut respecter les commandements et prier constamment, sans cesse, pour avoir la capacité et l'inspiration de savoir quoi faire et quand le faire. Et le Seigneur ne vous abandonnera pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Tout ce que tu demanderas avec foi, croyant que tu le recevras, te sera donné. Puis une écriture ajoute une idée, si c'est bon pour toi. L'évangile a un côté très pratique. Peut-être êtes-vous une personne âgée qui pense que son ministère est terminé, ou une personne jeune qui a peur de tout, ou une mère de famille très occupée par ses enfants, ou une père préoccupé. Mais vous pouvez enseigner, vous pouvez prier, et vous pouvez être guidé. Et vous y arriverez. Le Seigneur vous bénira. Je peux vous le promettre. Quand le Seigneur enseignait, il parlait toujours de choses que les gens connaissaient. Par exemple, le royaume des cieux est semblable à un filet. Il n'est pas réellement un filet. Il est seulement semblable à un filet. Puis le Seigneur explique pourquoi. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a raconté la parabole du semeur, c'était quelque chose à quoi les gens pouvaient se reporter. Il n'est pas seulement possible, mais assez probable, qu'un mois après qu'il ait eu raconté la parabole du semeur, et a parlé des graines tombées sur un terrain aride et sur un terrain fertile, l'une des personnes qui avait écouté est semée et voyant les graines dans sa main et revécu cette leçon. Si vous utilisez des paraboles, des histoires, des illustrations, elles vivent après la classe. Et la méthode du maître était remarquablement simple. Il était parfois assez sévère, mais il était toujours à leur niveau. C'est un appel sacré, un appel saint. Ce que je pense que je leur dirais aux instructeurs, c'est qu'ils n'enseignent jamais seuls. Ils n'ont jamais à être seuls. Le Seigneur l'a promis dans les Écritures. Nous parlons des Écritures. Nous lisons dans Alma que le Seigneur accorde des instructeurs à toutes les nations, dans toutes les langues. Et il a déclaré « Enseignez diligemment, et ma grâce vous accompagnera. » Je ne sais pas comment enseigner l'Évangile sans prier constamment. Vous pouvez prier en parole, mais aussi en pensée. Il m'arrivait souvent, quand j'instruisais un groupe ou une classe, pas vous évidemment, de prier intérieurement. Comment le faire comprendre? Je ne sais pas comment le faire autrement qu'en ayant ce pouvoir à ma disposition.
L'enseignement est au centre de toutes les activités de l'Église. Qui a la responsabilité de se préparer à enseigner?
Tout le monde est instructeur, les dirigeants, ceux qui suivent, les conseillers, les parents. Nous avons tous la responsabilité personnelle d'enseigner, d'apprendre les principes de l'Évangile. Le Seigneur établit son Église pour que nous fassions tous tout dans l'Église. Nous lisons dans les doctrines des Alliances que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde. Comme nous sommes bénis d'avoir une prêtrise non rémunérée, afin que tous les frères puissent détenir la prêtrise, que toutes les sœurs puissent avoir des appels, que nous puissions tous être parents. Donc l'enseignement est au centre de tout ce que nous faisons.
Quelle est la différence, puisque vous avez mentionné l'enseignement au foyer, quelle est la différence entre enseigner dans l'Église et enseigner au foyer? Y a-t-il une grande différence?
Au foyer, c'est plus intime, mieux, plus facile, moins formel. Et les parents peuvent montrer. Les parents enseignent aussi des choses un peu douloureuses pour les enfants, qui demandent pourquoi, et auxquelles on peut répondre que parce qu'on ne sait pas pourquoi. On sait juste que ce n'est pas la chose à faire. Et il faut leur enseigner l'obéissance pour qu'ils sachent et comprennent. Et au foyer, il y a ce puissant lien d'amour entre les parents et l'enfant qui fait qu'on n'abandonne pas tant que l'enseignement n'est pas passé.
Président, comment faites-vous passer l'esprit dans la classe de l'instructeur aux élèves de manière à ce que cela soit une expérience utile pour eux?
Premièrement, ils doivent savoir que vous les aimez, que vous voulez les instruire. Et puis, il faut communiquer à leur niveau. On peut flotter au-dessus d'eux et mettre dans l'Évangile en abordant les sujets avec lesquels ils n'ont pas de lien. Ce n'est pas ce qu'a fait le Seigneur. Le Seigneur les accompagnait et leur parlait dans la vie quotidienne. Et ses enseignements étaient toujours à ce niveau. Si vous avez quelque chose à enseigner, ils sont vraiment désireux d'apprendre. Même les adolescents, particulièrement les adolescents, veulent apprendre. Ils ont soif d'apprendre. Beaucoup d'instructeurs pensent qu'ils doivent être préparés au mot près. Oui et non. Cette préparation doit laisser la leçon suffisamment souple pour faire participer les élèves, pour leur faire poser des questions et les faire participer. Vous devez laisser un peu de place à l'inspiration afin que le Saint-Esprit puisse stimuler notre mémoire. Si nous devons enseigner quelque chose de difficile, si nous réfléchissons à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, il y a toujours une petite expérience personnelle, un endroit où nous sommes allés ou quelque chose que nous avons vu, que nous pouvons utiliser dans la leçon. Et les Écritures font partie de tout cela. Ce n'est pas simplement un livre qu'on lit de temps en temps pour connaître les règles de l'Église. Une bonne partie de l'enseignement qui est fait dans l'Église l'est de manière très rigide. Ce sont des exposés. Nous ne réagissons pas très bien aux exposés dans les classes. Nous faisons la réunion de Sainte-Cène, aux conférences. Il y a alors un prédicateur, c'est un sermon. Mais l'enseignement peut être à double sens. Vous pouvez donc poser des questions. Vous pouvez facilement susciter des questions dans une classe. Supposons que vous enseigniez le martyre de Joseph Smith, le prophète. Vous êtes instructeur d'histoire de l'Église. Vous avez tout étudié et vous savez que cela s'est passé le 27 juin 1944 à 17h, à la prison de Carthage, où le prophète a été abattu. Si vous demandez à quelle heure, où, etc., le prophète a été tué, aucun élève ne saura. Vous ne le saviez pas avant d'avoir lu le manuel. Et vous pouvez dire, qu'est-ce qui l'a amené à cela? À votre avis, qu'est-ce qui l'a amené à cela? Dès que vous demandez à votre avis, ils ont quelque chose à dire. Ils peuvent participer. Même les élèves qui sont plus au fond, qui sont plus en retard, ont quelque chose à dire. Il y a donc un moyen d'utiliser des questions, de diriger et gérer la classe. Soyez sensible aux questions. N'hésitez pas à poser des questions dans une classe. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous ne possédez pas, ni revenir d'un endroit où vous n'êtes pas allé. Donc, vous devez avoir l'esprit.
Brothers and sisters, wasn't that terrific? That was fun. That was fun for all of us. Wherever we are in the world, to gather together.
C'était formidable. C'était un vrai plaisir. C'était un plaisir pour tous ceux que nous soyons dans le monde de nous réunir et d'écouter deux grands dirigeants parler avec tant de chaleur et de profondeur de l'enseignement et de l'apprentissage à la manière de l'Évangile. Nous remercions frère Packer et frère Perry de ce fondement inspirant pour notre sujet aujourd'hui. Et nous attendons avec impatience le message de frère Monson qui couronnera le tout à la fin de notre réunion. Une indication de la priorité que les frères présidents donnent à l'enseignement et à l'apprentissage et que toute la formation mondiale des dirigeants de cette année est consacrée à ce sujet. La raison en est peut-être évidente. Nous comprenons tous que la réussite du message de l'Évangile repose sur son enseignement, sa compréhension, puis son application, de telle manière que la promesse de bonheur et de salut qu'il contient se réalise. C'est pour cette raison que la dernière grande recommandation que Jésus a faite à ses disciples, juste avant son ascension, a été « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce que le Sauveur souligne dans ce passage, c'est que, quelle que soit la quantité de choses à faire pour vivre l'Évangile, et il y en a beaucoup, rien ne peut être accompli tant qu'on ne nous a pas enseigné ces vérités et que nous n'avons pas appris la voie de l'Évangile. Depuis maintenant plusieurs années, le président Hinckley nous recommande de maintenir nos membres proches de l'Église, particulièrement les jeunes et les nouveaux convertis. Il a dit que nous avons tous besoin d'un ami, d'une responsabilité et d'être nourri de la bonne parole de Dieu. Un enseignement inspiré au foyer et à l'Église permet d'apporter cet élément crucial qu'est la bonne parole de Dieu. Et la possibilité de magnifier cet appel existe partout. Pères, mères, frères et sœurs, amis, missionnaires, dirigeants et instructeurs de la prêtrise des auxiliaires, instructeurs dans les classes, sans oublier nos merveilleux instructeurs du séminaire et d'institut qui se joignent à nous aujourd'hui. La liste est longue. En fait, dans notre Église, il est quasiment impossible de trouver quelqu'un qui ne soit pas instructeur. Le président Packer en a parlé dans sa conversation avec Frère Ferry. Il a dit, et je cite, « Tout le monde est instructeur, le dirigeant, le disciple, le parent, le conseiller. » Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait écrit « Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des instructeurs ou des docteurs. Après cela vient l'ensemble des bénédictions que sont les miracles, les dons spirituels et les manifestations célestes. Soulignant la nature divine de ceux qui ont été appelés comme instructeurs, un jeune apôtre du nom de David O'Mackay a dit en conférence générale en 1916 l'homme ou la femme ne peut avoir de plus grande responsabilité que d'instruire des enfants de Dieu. C'est toujours vrai. Nous avons tiré de cette citation le titre de notre merveilleux manuel d'aide pédagogique de l'Église, l'enseignement, pas de plus grand appel. Dans le cantique de la primaire magnifique qui est respecté, je suis enfant de Dieu, les enfants chantent aux parents et aux instructeurs. Conduis-moi et marche avec moi sur le bon chemin. Apprends-moi comment agir pour le connaître enfin. C'est là notre tâche commune dans l'Église. C'est la responsabilité que nous partageons. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous devons nous instruire mutuellement. Nous devons nous aider mutuellement à trouver le bon chemin. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Vous pouvez voir à la documentation étalée sur cette table que j'essaie de préparer une leçon. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? C'est la leçon d'aujourd'hui, une leçon pour vous tous. Se préparer pour n'importe quelle classe représente du travail, cela prend du temps. À ce sujet, je vous recommande de commencer à réfléchir, à vous préparer très tôt pour les leçons que vous devez faire. Par exemple, si je devais enseigner un cours de dimanche, je lirais entièrement la leçon et je commencerai à prier à ce sujet le dimanche précédent. Cela me donne toute une semaine pour prier, rechercher l'inspiration, réfléchir, lire et rechercher des applications concrètes qui donneront de la vitalité à mon message. Vous ne finaliserez pas la leçon sitôt à l'avance, mais vous serez surpris de voir tout ce que vous trouverez durant la semaine, tout ce que Dieu vous donnera, des choses que vous voudrez utiliser, que vous finaliserez quand vous finaliserez votre préparation. En parlant de préparation, je vous recommande aussi d'éviter une tentation que rencontrent presque tous les instructeurs dans l'Église. En tout cas, ça m'est arrivé à moi. C'est la tentation de couvrir trop de sujets. La tentation de faire entrer dans l'heure de cours ou dans la tête des élèves plus qu'ils ne peuvent contenir. Rappelez-vous deux choses à ce sujet. Tout d'abord, nous instruisons des gens. Nous n'enseignons pas un sujet. Et deuxièmement, toutes les leçons que j'ai vues contenaient toujours plus de choses qu'il n'était possible d'enseigner dans le temps imparti. Ne vous faites donc plus de soucis à ce sujet. Il est préférable de ne prendre que quelques bonnes idées et d'avoir une bonne discussion et un bon apprentissage que de s'évertuer à vouloir enseigner chaque mot du manuel. Dans la documentation qui se trouve devant moi, il y a déjà trois ou quatre fois plus que je pourrais vous dire aujourd'hui dans le temps imparti à un cours d'une heure. Donc, comme vous, j'ai dû choisir et sélectionner. Je réserve certaines choses pour une autre fois. Si vous voulez que l'Esprit du Seigneur soit présent dans votre classe, il est absolument essentiel qu'il n'y ait pas de précipitation. S'il vous plaît, n'oubliez jamais cela. Trop d'entre nous vont trop vite. Nous passons à côté de l'Esprit du Seigneur en essayant d'aller plus vite que l'horloge dans une course absolument pas nécessaire. Retournons maintenant à la belle discussion entre le président Packer et Frère Perry pour trouver quelques points clés de la réussite dans la grande tâche de l'enseignement et de l'apprentissage. Pour ce faire, nous allons entrer dans une classe ici, au siège de l'Église, où nous allons agir à peu près de la manière dont nous espérons que vous agissez dans votre classe, ou que ce soit dans le monde. Il n'y a pas eu de répétition, c'est spontané, tout comme sont vos classes. L'instructeur a fait son mieux pour se préparer, prier, je vous assure que je l'ai fait. Et les élèves aussi. Après avoir fait une prière en classe, nous allons faire confiance à l'Esprit du Seigneur pour guider notre enseignement. Donc, bienvenue en classe. Voici notre classe, salle de classe, notre distingué auditoire. Et nous vous incluons tous. Nous allons maintenant élargir un peu le cercle en termes de discussion. Disons que cela représente à peu près la taille d'une classe moyenne, plus ou moins. Certains d'entre vous ont plus d'élèves, d'autres en ont moins. Mais les principes d'enseignement seront essentiellement les mêmes, quelle que soit la taille de la classe. Nous avons ici 15 personnes absolument parfaites et belles, et une 16e, c'est vous, l'auditoire mondial à qui s'adresse cette émission. Je regarderai parfois la caméra pour vous voir. Vous, le 16e participant. Par moments, je parlerai à ces 15 personnes, mais nous participons tous. Alors, joignez-vous au groupe. Regardez, écoutez les nouvelles idées, les choses qui vous concernent personnellement. Et cela n'aura peut-être rien à voir avec ce que nous disons, mais c'est comme cela que l'Esprit opère. Soyez ouverts aux murmures sur la manière dont vous pouvez enseigner, et souvenez-vous que vous pouvez enseigner, vous pouvez le faire. Bienvenue. Eh bien, maintenant, c'est à vous, frère. Perry a posé la question au président Packer au milieu de leur conversation. Je crois qu'il a dit quelque chose comme « Que diriez-vous à un nouvel instructeur si quelqu'un venait de te rappeler, que lui conseilleriez-vous ? Qui lui donnerait du courage et le rendrait capable d'accepter l'appel, de le remplir et d'y prendre plaisir.
Vous pouvez réussir.
Vous pouvez réussir. Tout le monde peut enseigner. Et c'est ce qu'a dit le président Packer quand il a répondu à cette question avec Frère Perry. Il s'est référé, j'ai pris des notes durant ce petit échange, il s'est référé à des écritures qui vous promettent que vous pouvez réussir. Et c'est toujours une sorte de second témoin. On est plus rassuré si l'on peut utiliser des écritures. Les écritures viennent à l'esprit?
Moroni 10, 17,
dernier chapitre du livre de Mormon. Une grande déclaration sur les dons. Voulez-vous la lire, frère Jensen?
Et tous ces dons viennent par l'Esprit du Christ, et ils viennent à tous les hommes séparément.
C'est formidable.
Personne n'est exclu.
Personne n'est laissé de côté. Je crois que ça signifie parfois tout le monde sauf moi. Tout le monde peut enseigner sauf moi. Ou tout le monde peut diriger sauf moi. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il y a des dons pour tout le monde. Une petite mise en garde à ce sujet pendant que nous y sommes. Frère Jensen, continuez. Voyez le verset 8. Lisez les deux premières lignes du verset 8.
Et en outre, je vous exhorte, mes frères, à ne pas nier les dons de Dieu, car ils sont nombreux et ils viennent du même Dieu.
Arrêtons-nous là, oui. Je pense que nous pouvons être tentés de nier ces dons. Nous restons un peu à la traîne. Quand vient un appel ou quand nous devons faire face à une classe, et c'est plutôt intimidant pour n'importe quel d'entre nous, il y a quelque chose en nous qui dit... Je n'en suis pas capable et je vais refuser. Je vais nier que le don peut venir. Je vais nier que le don m'est donné. Je vais, en un sens, nier l'authenticité de l'appel. D'une certaine manière, je suppose que c'est ce que nous disons. Et c'est ce que Moroni dit ici, c'est de ne pas nier. Ne pas nier les dons de Dieu, car ils sont nombreux. Encore un verset du Nouveau Testament. Nous avons eu un verset du Livre de Mormon, mais je pense à quelque chose que le Sauveur a dit directement à ses disciples dans le Nouveau Testament. Et j'ai appris que c'est la promesse, la déclaration, la promesse scripturaire répétée plus que presque toute autre écriture. Quelqu'un a dit que, sous une forme ou une autre, elle figure centaines de fois dans les écritures. Si elle ne figurait qu'une ou deux fois, j'imagine qu'on l'appliquerait une ou deux fois. Mais quelque chose qui est répété 20, 40, 60, 80 fois a de toute évidence beaucoup d'importance pour le Seigneur. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que je demande comme verset du Nouveau Testament concernant ce sujet? Sœur Matsumori.
Eh bien, si vous parlez réellement de ce qui est répété le plus fréquemment, je dirais que c'est l'écriture qui dit demander et vous recevrez.
C'est là, vous avez gagné, vous avez mérité la récompense aujourd'hui, Sœur Matsumori.
Vous savez que ce n'est pas permis à la primaire.
Ah, nous avons une dirigeante de la primaire qui nous indique ce que l'on fait et ne fait pas à la primaire. Sœur Matsumori, comme vous avez trouvé la réponse, pouvez-vous lire Matthieu 7, 7, 7? Cela fait partie du sermon de la montagne, et c'est l'un des nombreux endroits où l'on trouve cette promesse.
Demandez et vous l'en demandera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
Merci. J'aime le style précis, clair et direct de cette promesse. Si nous demandons, nous recevrons. Et si nous frappons, on nous ouvrira. On peut le faire. Nous commençons maintenant à avoir quelques idées. Et je vais demander à Sir Hughes, de notre président général de cette secours, d'être notre secrétaire aujourd'hui. Vous remarquerez que je choisis de ne pas écrire dans mon égyptien non réformé. Donc, nous avons un titre. Je pense que nous avons un thème qui commence à se développer. Celui que le président Packer nous a donné dans sa discussion avec Perry. Et c'est ce don d'enseigner. Le don de l'enseignement. Pouvez-vous écrire cela comme en tête pour nous, Soyuz? Comme nous avons commencé à parler, et c'est ce qui se passera, nous avons trouvé quelques écritures, et nous avons noté quelques idées, les choses dont nous voulons nous souvenir sur la manière de rechercher le don de l'enseignement. Et en numéro un, l'idée de Sœur Matsumori vient de nous donner, demander, chercher et frapper spirituellement. Je suppose que c'est la condition la plus fondamentale pour un instructeur qui recherche ce don que Dieu nous a promis. Farker.
Il me semble qu'il est très important de mettre la conclusion de cela et peut-être même de la voir devant nous. Qu'obtenons-nous en demandant? Nous recevons.
Bien.
Qu'obtenons-nous en cherchant? Nous trouvons.
Bien.
Nous frappons et la porte s'ouvre.
Écrivons l'idée. Mettons une parenthèse en dessous. Sir Hughes, que nous allons recevoir, il y a là une promesse. Frère Howell.
Avec cela, toutefois, j'aime Luc 12:12, où il est dit,
bien, lisez-le, s'il vous plaît.
Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire.
Cela commence à ouvrir une toute nouvelle idée, parce que nous disons toujours cela aux missionnaires. Nous disons toujours aux missionnaires qu'il faut ouvrir la bouche, et que s'ils se sont préparés, ont fait de leur mieux, Dieu leur donnera à l'heure même ce qu'ils doivent dire. C'est toute une nouvelle idée, large et merveilleuse, sur le concept de demander de recevoir à l'heure même. C'est un verset formidable, Lauren. Sœur Smith.
Je pense que parfois, quand nous sommes dans une situation comme ici, où je me sens toute petite devant les gens de cette salle.
Détendez-vous.
Et aussi, quand on est un converti et qu'on nous demande d'instruire une classe de gens qui descendent des pionniers, il arrive que l'esprit nous pousse à dire quelque chose qu'on ne voudrait pas dire. Mais dans Exode 4:12, il est dit, « Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Et je pense que si nous voulons laisser l'Esprit nous pousser à dire ces choses, bien que nous pensions que ce n'est pas cela, ou que nous avons toutes ces réponses, nous laissons notre Père Céleste faire son travail en parlant par notre intermédiaire.
Formidable! Quel verset magnifique. Je ne sais pas si au cours de toutes les années où j'ai discuté à ce sujet, je ne sais pas si j'ai jamais entendu utiliser ce verset. Donc, merci, merci, Sœur Smith. Et le contexte, bien sûr, de cette tâche écrasante qu'avait Moïse et qu'avaient les enfants d'Israël de s'extirper des problèmes de la vie. C'est ce que nous affrontons tous. C'est un très bon verset à citer. Ne t'en fais pas, cela te sera donné. Merci pour cette citation. Gardez ces citations à l'esprit, si vous devez enseigner un sujet comme celui-ci, vous pouvez les utiliser, beaucoup d'autres, Fresno.
Une autre difficulté est aussi que beaucoup d'entre nous, quand ils sont appelés à enseigner, se sentent écrasés par l'énormité de la tâche, incompétents et non préparés. Mais si nous faisons de notre mieux pour étudier la documentation qui nous est donnée, les Écritures, puis faisons simplement confiance à l'Esprit, nous serons aidés. Je pense que parfois, nous nous sentons écrasés parce que nous n'avons pas suffisamment de connaissances.
Absolument. Et nous ressentons tous cela. Tous les gens qui n'ont jamais enseigné ont ressenti cela. Et je pense qu'il est juste de le dire, je pense que nous tous ici représentons l'effort collectif de l'Église pour donner aux gens une bonne documentation. Nous avons réellement une bonne documentation pour les programmes. Nous avons de bons manuels de leçons. Ce ne sont pas eux qui font les leçons. Mais nous avons la grande assurance que nous ne sommes pas seuls pour enseigner. Nous n'avons pas à réinventer la roue. Nous avons une très bonne documentation et nous allons en parler tout au long de la journée. Cela nous aide à ne pas nous sentir aussi écrasés par la tâche. Avançons pour commencer à voir d'autres points. Quand le président Packer parlait avec Frère Perry, il a dit qu'il y avait quelque chose j'ai la citation, il a dit, je me suis toujours reposé sur blanc, que ce soit au pupitre ou debout devant une classe. Il a dit qu'il ne voulait jamais aller nulle part sans elle. Qu'a-t-il dit? Je vous ai entendu dire, Sobek?
Les Écritures.
Oui, les Écritures, absolument. Voulez-vous mettre numéro 2, Sir Hughes, enseigner à partir des Écritures? Je pense qu'on ne saurait trop insister ni surestimer cela dans notre rôle d'instructeur dans l'Église. Évidemment, parce que la substance même de l'Évangile, les Écritures elles-mêmes, sont ce que nous sommes appelés à enseigner, que ce soit à la primaire, à nos groupes d'adultes, à tous nos groupes d'adolescents, à qui que ce soit, au foyer ou à l'Église. Et cela me rappelle une parole puissante. Reportez-vous avec moi à Alma 31, s'il vous plaît. Un verset que j'aime et qui, à mon avis, parle de ce sujet avec plus de puissance que tous les versets que je connais. Alma a reçu une mission très, très importante. Une mission très difficile. Une mission chez les Oramites. Et il vient d'avoir cette conversation avec Corior. C'est une partie difficile de ce livre. Et il trouve ce qui marche pour lui. Et il trouve ce qui ne marche pas pour cette tâche difficile, celle d'enseigner et de témoigner. Frère Wada, il semble que vous précipitiez vers ce verset. Pouvez-vous lire Alma 31:5
Et maintenant, comme la prédication de la parole avait une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui était juste, oui, elle avait un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée ou quoi que ce fût d'autre qui lui fût arrivé, Alma pensa qu'il était opportun d'essayer la vertu de la parole de Dieu.
Merci beaucoup. Au fil des années, ce verset est devenu l'une de mes écritures préférées. Nous ne devons peut-être pas avoir d'écriture préférée, mais nous avons tous des versets auxquels nous retournons souvent, et pour moi, c'en est un. Comme la prédication de la parole, le pouvoir de la parole, avait une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui était juste, elle avait un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée, et ils avaient eu beaucoup d'épées dans ce livre et dans leur vie, ou quoi que ce fût d'autre. Tous les autres conflits, batailles, difficultés que nous avons rencontrées, elles avaient un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée ou quoi que ce fût d'autre. Alma pensa qu'il était opportun d'essayer la vertu de la parole de Dieu. L'un des sens de vertu et pouvoir, d'après le dictionnaire, en vertu de signifie par le pouvoir de.
Greek New Testament language for that is power has gone out of me. Same point, but so we can.
Nous pouvons lire qu'Alma dit dans ce verset que nous devons essayer le pouvoir de la parole de Dieu parce qu'elle a un effet puissant. Oui, frère Wada.
Pour la parole de Dieu que vous avez mentionnée, je pense que tout le monde vient à l'église pour apprendre quelque chose et veut être nourri. Et une expression du livre de Jacob, laissez-moi vous la citer.
Jacob, combien ? Donnez-moi la référence pour que je la répète au micro.
Jacob 2, verset 8.
Jacob 2, verset 8, merci.
Je suppose qu'ils sont montés ici pour entendre la parole agréable de Dieu, oui. La parole qui guérit l'âme blessée.
Merci. Mais quel verset merveilleux, merveilleux. J'ai utilisé ce verset pour de nombreuses raisons différentes, mais pas celle-là. C'est formidable.
Je suis heureux quand, juste après un cours, quelqu'un vient me dire, c'est exactement ce que je voulais entendre. Et j'en avais besoin.
Une idée profonde. Merci, frère Wada. Parce que les gens vont à l'église pour avoir une expérience spirituelle. C'est pour cela qu'ils y vont. Nous allons à l'église et nous nous y réunissons pour entendre la parole de Dieu et ressentir l'esprit, pour entendre des témoignages convaincants. Quand viennent des moments difficiles, quand nous avons besoin d'être guéris, ce qu'offre le monde n'est pas suffisant. Nous venons pour être guéris par la parole de Dieu. C'est un verset formidable. Oui, Vicky, Sir Matsumori.
Pour la plupart des instructeurs de la primaire, instruire les enfants à partir de la parole de Dieu est vraiment difficile. Les enfants ne savent pas lire, ils n'ont pas leurs écritures, ils ne les connaissent pas.
C'est vrai.
Et si leur famille ne s'en est pas chargée, cela peut vraiment être difficile.
Voilà une instructrice expérimentée de la primaire qui nous fait une petite mise en garde pour nous faire comprendre que nous allons avoir des enfants de tous âges à faire avancer comme on doit le faire avec des enfants. Bonne remarque, Sœur Matsumori.
C'est la même chose avec les jeunes gens et les jeunes filles. Et cela, s'ils comprennent la parole, ils le doivent, comme a dit Néphi, ils doivent être capables de l'appliquer. Ils ont besoin de voir les Écritures prendre la vie.
L'appliquer eux-mêmes, oui. Nous parlons ici de faire l'expérience, d'expérience au foyer, et nous avons des instructeurs de séminaire, ou d'instituts dans l'auditoire. Nous parlons de quelque chose qui, en fait, doit grandir avec le temps. Nos jeunes gens et nos jeunes filles, nous ne serons pas impatients si cela prend un peu de temps. Oui, frère Jensen.
Jusqu'à maintenant, notre discussion s'est concentrée sur les ouvrages canoniques. Nous avons d'autres écritures.
Oui. Vous voulez dire un mot sur les prophètes vivants?
Et comme je m'occupe un peu des publications de l'Église au département du programme, nous avons de bons manuels et nous avons...
Des magazines
et des histoires. Ne sont-ils pas puissants?
Je suppose qu'on peut répondre à cette question par toute la documentation qui existe. Les paroles des ouvrages canoniques, elles deviennent des outils entre nos mains et nous avons une documentation formidable. Sans parler de toutes les paroles des prophètes vivants, des diffusions semestrielles de conférences générales et des magazines de l'Église. Nous avons en abondance la parole de Dieu à notre disposition et nous devons l'utiliser. Soyuz.
Mais pour moi, cela soulève la question de savoir pourquoi. Il arrive fréquemment que, comme Frère Oaks a souligné dans un discours qu'il a fait, nous ne connaissions que vaguement le contenu ou l'existence du manuel.
Et nous enseignons ce que nous voulons.
La question que je voudrais poser aujourd'hui est, pourquoi faisons-nous cela? Je veux dire, comment pouvons-nous aider nos frères et sœurs à comprendre que les manuels sont pour notre édification?
Oui, c'est un bon rappel. Cela s'accorde avec le commentaire de Fred Jensen, qui a d'immenses responsabilités vis-à-vis du programme de l'Église. Dans l'esprit de vos bons commentaires et des idées que vous avez données, de nouvelles idées sur le pouvoir de la parole et sur la guérison, l'aide et la lumière qui en découle. Je me souviens d'une histoire qui n'est pas enregistrée sur notre bande, mais que le président Packer a raconté au Collège des Douze il y a quelques années. Il a parlé d'un hiver très rude en Utah, où la quantité de neige avait fait descendre les troupeaux de chevreuils très bas dans certaines vallées. Et certains avaient été bloqués. Ils avaient été bloqués par des clôtures et des situations qui ne correspondaient pas à leur habitat naturel. Des organisations bien intentionnées, rapides et capables, avaient alors essayé de nourrir ces chevreuils pour les aider à passer l'hiver. Elles avaient apporté du foin et en avaient déposé partout. Tout ce qu'elles pouvaient faire dans ces circonstances. Mais un très grand nombre de ces chevreuils ont été retrouvés morts de faim. Les gens qui s'occupaient de ces animaux ont dit qu'ils avaient l'estomac plein de foin, mais qu'ils étaient morts de faim. On leur avait apporté une nourriture, mais cela ne les avait pas nourris. Tous les instructeurs doivent se souvenir que nous devons nourrir aussi, c'est-à-dire nourrir de la bonne parole de Dieu. Et nous pouvons être nourris aussi, c'est ce qu'il y a de bien, mais il est important d'être ancré à la parole de Dieu. Soyez, s'il vous plaît, point numéro 3, enseignez selon et avec l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est le véritable instructeur, et c'est pourquoi j'ai dit, je pense, il y a une minute à notre auditoire mondial, écoutez, écoutez avec votre cœur, écoutez avec votre âme, et vous pourrez avoir des sentiments qui n'ont aucun rapport, des murmures qui n'ont rien à voir avec ce que nous disons. Cela peut être quelque chose de très personnel, cela peut concerner votre foyer, votre mariage ou votre enfant, mais c'est l'Esprit, et c'est le véritable instructeur. Et il y a une ligne du 16e verset de la 43e section de Doctrine et Alliances qui dit que vous allez être enseigné d'en haut. Nous sommes des instruments, des outils. Ce sont notre langue et nos lèvres, mais l'instructeur est en haut. Bon, maintenant je vais parler à mon camarade Orrin Howell, d'accord? Alors, premièrement, il est bon pour enseigner que les membres de la classe se connaissent un peu mieux. Et nous allons faire cela pendant une minute avec Orrin. Allez Orrin, c'est à nous. Depuis quand êtes-vous membre de l'Église?
Je me suis fait baptiser en juin 1996.
1996. Où vous êtes-vous fait baptiser, Frawell?
En Bosnie.
En Bosnie. Que faisiez-vous en Bosnie, Frawell?
J'étais dans l'armée à cette époque.
Vous étiez dans l'armée à cette époque. Où, dans quoi, en Bosnie, avez-vous été baptisé?
J'ai été baptisé à Tuzla, dans un ancien bar russe qui avait été transformé en église, dans ce qui avait été le capot d'un tank, retourné à l'envers, apporté dans l'église et utilisé comme fonds baptismaux.
Je ne suis pas sûr que nous pouvons aller où cela nous mène, mais voilà un merveilleux jeune homme dans l'armée qui est touché par la vie d'autres saints des derniers jours dans l'armée. Il reçoit le témoignage de l'Évangile et veut se faire baptiser. Alors, l'Église a aménagé, où ils se réunissent par temps de guerre, contient le capot renversé d'un tank, si je comprends bien, Orrin.
Le capot du moteur.
Le capot du moteur. d'un tank qui a été enlevé, retourné pour former un bassin rempli d'eau. Et Orin a rempli le bassin. Et celui qui l'a rempli, il s'est fait baptiser. Maintenant, la question réellement importante, Orin. Qui vous a confirmé membre de l'Église dans cette situation?
C'est vous, frère Holland.
Moi?
Oui.
Moi? J'ai eu la magnifique bénédiction durant l'été 1996 de confirmer Orin Howell, membre de l'Église, à Tuzla, en Bosnie, en temps de guerre, où nous luttions dans un certain sens pour rester en vie, je veux dire, au sens propre, et de voir ce merveilleux jeune homme, maintenant grand prêtre, servant fidèlement l'Église dans la vallée du lac Salé. C'est un membre distingué de notre classe aujourd'hui. Merci, Orin, de cette petite biographie. Cela permet aux membres de la classe de se connaître un peu mieux, car nous ne nous fréquentons pas aussi souvent que nous le voudrions. Je vais demander à Frère Howell de traiter « Enseigné par l'Esprit » et de prendre la section 50, Frère Orin. Prenons dans la section 50 une série et suite de versets que nous utilisons souvent, régulièrement, nécessairement pour les missionnaires, mais nous devrions aussi l'utiliser avec nous tous. Prenons le verset 13. Powell, voulez-vous lire Doctrine et Alliance 53?
Moi, le Seigneur, je vous pose donc cette question. À quoi avez-vous été ordonné?
Bon, mettons simplement, pour que l'application soit plus large ici, mettons le mot « appelé ». Le mot appelé à la place de ordonner, d'accord? Ordonner, le langage de la prêtrise. Et nous allons parler de l'appel général à enseigner. Donc, moi le Seigneur, je vous pose donc cette question. À quoi avez-vous été appelé? Maintenant, frère Well, lisez la réponse au Seigneur au verset 14.
À prêcher mon évangile par l'Esprit, oui, par le Consolateur qui a été envoyé pour enseigner la vérité.
Juste une affirmation scripturaire pour souligner ce que nous essayons de développer, ce que nous avons déjà dit, c'est-à-dire que le véritable instructeur, c'est l'Esprit. Je ne suis pas l'instructeur, et vous n'êtes pas les instructeurs quand vous allez dans les classes. Nous sommes tous réceptifs. Nous devons tous être réceptifs au Saint-Esprit, au guide des cieux, qui est l'instructeur. Pour prêcher l'Évangile, par l'Esprit, oui, par le Consolateur qui a été envoyé pour enseigner la vérité. Ensuite, l'Écriture fait ici une mise en garde. Et si nous essayons d'enseigner d'une autre manière? Et si nous essayons d'enseigner sans l'Esprit, sans nous soucier de l'Esprit, ou sans être réceptifs de l'Esprit, à l'Esprit? Quel est le verdict du Seigneur sur ce genre d'enseignement? Sœur McKee, voulez-vous lire le verset 18, juste quelques versets plus bas que ce Corinne a lu?
Si c'est d'une autre façon, ce n'est pas de Dieu.
Redites-le encore une fois, c'est si puissant.
Si c'est d'une autre façon, ce n'est pas de Dieu.
Si c'est d'une autre façon, ce n'est pas de Dieu. Combien d'autres façons? Sobek.
Donc, cela veut-il dire que si j'étudie mes livres et mes manuels, que j'écris un plan, je ne peux pas enseigner ça? Ou que je dois juste me préparer et être prête à tout laisser de côté pour être dirigée par l'Esprit avec la préparation que j'ai?
Y a-t-il des commentaires à cette question avant que je donne ma réponse? Vous avez entendu la question de Sorbeck. Avez-vous une réponse? C'est une question légitime.
Vous savez, l'Esprit ne murmure pas uniquement quand vous vous levez sans utiliser vos notes. Je pense que l'Esprit peut murmurer dès la préparation et durant l'élaboration. Cela ressemble beaucoup aux conférences générales. Les conférences générales ont une manière merveilleuse de nous toucher, mais il y a beaucoup de préparation.
Il y a du travail avant. D'autres commentaires à ce sujet? Quelle est la part de l'instructeur et quelle est la part de l'Esprit?
Je suis préparée. J'y ai travaillé. Donc, si je me lève et lis mon plan et me dis, ça y est, je suis prête, j'ai pleinement confiance. Je me suis préparée et je peux être guidée, mais ensuite être capable de dire « Je ferai tout ce que tu veux que je fasse dans cette situation. » Et si quelqu'un dans ma classe a une difficulté dans la semaine, ça change la donne. Aidez-moi à comprendre comment conjuguer les deux. Être guidé et dirigé pour dire ce qui me vient à l'esprit à ce moment-là ou alors utiliser une écriture?
C'est une très, très bonne question et tous les instructeurs se la poseront. Farka, vous aviez un commentaire.
J'allais juste dire que je pense que la clé, c'est, au-delà de se préparer et d'amasser la parole, c'est de ne pas rester enfermé dans le plan,
oui,
de ne pas y être lié, mais que ce soit juste un cadre, puis d'être ouvert à l'esprit.
D'accord. Il y a donc la place pour les deux. Il ne serait pas juste d'entrer en disant « je n'ai rien préparé, mais l'Esprit va nous guider ». Mais d'un autre côté, être enfermé dans sa préparation au point d'entendre aucun des murmures qui nous sont adressés pendant la leçon serait l'autre extrême. Je pense que Sir Beck est en train de nous amener tous à comprendre que c'est la combinaison des deux. Nous sommes préparés, mais nous sommes ouverts à l'Esprit. Et nous avons la liberté d'aller où nous devons aller à ce moment-là, au moment de la leçon. Frère Snow et puis Sir Hughes.
Nous devons comprendre que chaque membre de cette classe va rentrer chez lui en ayant perçu un murmure de l'esprit légèrement différent.
Merci.
Dans cette classe, il est donc extrêmement important que l'esprit soit présent. Mais combien d'entre nous ont entendu, au moment d'une discussion formidable, l'instructeur dire « C'est une très bonne discussion, mais je dois terminer la leçon ».
Oui, bien sûr. Tout le monde.
Et nous ratons parfois des occasions en faisant cela.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et ce sont des réalités que nous devons apprendre à gérer. Et nous devons nous-mêmes être aussi sensibles que la personne qui a eu cette impression, avant de faire ce qu'il faut sur le champ et saisir l'occasion. Sir Hughes.
Vous savez, c'est une question qui m'a toujours réellement intéressée et qui me laisse un petit peu perplexe. Comment savoir et comment un instructeur peut-il savoir? Parce que je ne suis pas sûre de comprendre parfaitement qu'il enseigne par l'esprit. Je ne sais pas. Je vous le demande parce que je ne sais pas. En ce qui me concerne, quand j'enseigne, j'ai toujours cette confiance et je n'ai pas
des commentaires, des réactions à cela. L'assurance de l'instructeur qu'il enseigne par l'esprit, qu'est-ce que vous chercheriez comme indication, ou faites-vous juste preuve de foi et espérez que les choses que Fresno a mentionnées se produisent? Et nous ne savons pas toujours. Frère Jensen,
je me demande si ce n'est pas le cas, au moins pour moi, et j'ai la même question. Et en revenant à la section 50, mais peut-être que vous vouliez le mentionner, au verset 21 et 22, comment se fait-il donc que vous ne puissiez comprendre et savoir que celui qui reçoit la parole par l'Esprit de vérité la reçoit telle qu'elle est prêchée par l'Esprit de vérité? C'est pourquoi celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent, et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble.
Donc peut-être un peu de joie, Cathy. Peut-être que si notre cœur se réjouit un peu, c'est une indication. Oui, Jay, un autre commentaire?
Simplement, c'est ce que nous voyons faire aujourd'hui avec nous. L'instructeur devant, doit-il parler, donner un message et ne pas demander de participation? J'ai une petite citation que je garde dans mes écritures à propos de ce verset et je pense que je l'apprécie davantage aujourd'hui que nous en avons parlé. La voici. Faites participer parce que l'utilisation du libre arbitre par un élève permet au Saint-Esprit d'instruire. Et quand nous parlons, c'est le Saint-Esprit qui enseigne et vous écoutez.
Bien.
Voudriez-vous dire, redire cela, le relire?
Oui, relisez-le, relisez-le.
Frère Scott a dit cela au cours de l'une des réunions de formation du DE. Veillez à ce qu'il y ait une participation abondante parce que cette utilisation du libre arbitre par un élève permet au Saint-Esprit d'instruire. Cela aide l'élève à retenir votre message. Lorsque des élèves expriment des vérités, celles-ci sont confirmées dans leur âme et elles fortifient leur témoignage personnel.
C'est magnifique. Cela rappelle une pensée que Marion T. Romney qui a dit un jour: je sais toujours quand j'ai parlé sous l'influence de l'esprit, parce que j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Il est l'orateur, ou il est l'instructeur, et soudain, il dit les choses, ou il pense à des choses auxquelles il n'avait pas pensé avant. ou s'il y a pensé avant, elles sont venues avec un nouveau plaisir, une nouvelle force. Ce sont certaines des indications. Je ne veux pas trop m'éloigner du commentaire de Frère Snow, que souvent nous ne savons pas. Nous allons faire notre mieux, mais dans notre grand auditoire mondial, nous espérons qu'il se passe ou se passera des centaines de milliers de choses dans le cœur des gens suite à cette leçon et ou à d'autres expériences dans l'Église, et nous ne saurons jamais. Cela fait peut-être partie de l'appel divin instructeur, d'être un instrument et d'avancer en sachant que nous avons été aussi spirituels, aussi dévoués que nous le pouvons, et puis le miracle de la révélation personnelle se poursuit à l'infini. Je pense que c'est une idée très réconfortante concernant l'enseignement et les instructeurs. Quatrième point, aider l'élève à assumer la responsabilité de l'apprentissage. Que faites-vous quand vous entrez dans une nouvelle classe où il ne se passe rien, où quelqu'un vous dit par son langage corporel, « Je vous défie de m'instruire, je vais m'affaler sur cette chaise, je vais baisser la tête et je vais regarder mes chaussures. Et quand je vous regarderai, ce sera avec une mine renfrognée. » La situation ne sera peut-être pas toujours aussi mauvaise, mais ça m'est arrivé. Nous sommes tous probablement trouvés dans des situations où il semblait que les gens n'étaient pas prêts à apprendre. Comment aider les gens à s'y préparer? Comment les aide? Sorbeck.
Je pense que parfois, je prépare bien mes questions. Mais quand vous parlez des élèves, ça semble à ce que nous disons. Plus nous pouvons leur faire poser de questions sur un sujet, plus ils sont engagés dans l'apprentissage.
Okay. D'accord.
Et l'exemple qui m'est venu à l'esprit est celui de Joseph Smith. Il a lu un verset d'Écriture dans Jacques. Cela a soulevé une question dans son esprit. Et il a dit, « Comment vais-je savoir? Et saurai-je un jour? Et si je n'arrive pas à comprendre ça, je ne saurai jamais. » Il était dans un mode d'apprentissage quand il a demandé à Dieu. Mais pour moi, c'est une difficulté pour un instructeur. Pas tant les questions que je pose que ce qui se passe et qui aide les gens à poser des questions afin que le Saint-Esprit puisse les instruire.
L'un des petits livres que je préfère dans l'Église a été écrit par un ami de longue date, professeur à BYU, Dennis Rasmussen, intitulé « La question du Seigneur ». Et c'est un modèle de la manière dont le Seigneur enseigne toujours, en commençant par une question comme des Adam, « Où es-tu ? » Il sait parfaitement où est Adam. Il a besoin de savoir si Adam sait où est Adam. C'est pour cela que vous posez une question. Adam, où es-tu? Et ainsi de suite. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? La vie du Sauveur a consisté à questionner les gens afin que ceux-ci répondent par une question et beaucoup de révélations. Je ne sais pas combien, je ne sais pas compter, mais beaucoup de révélations, très nombreuses révélations de l'Alliance dans la période moderne de l'Église ont été en réponse à une question que le prophète ou les frères ont posée au Seigneur. Juste pour confirmer ce que vous avez dit, Sœur Beck, absolument. Sœur Matsumori.
C'est un sujet qui me préoccupe un peu en ce qui concerne les enfants. Même lorsque le président Packer a dit qu'il voulait apprendre. Mais pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a des enfants en âge de la primaire
qui ne veulent pas,
qui sont là quand vous avez décrit cette personne. Et je pense que c'est difficile. C'est un concept supérieur que de penser que l'élève va assumer la responsabilité de l'apprentissage, particulièrement pour les jeunes enfants. Et donc, comment un instructeur de la primaire s'y prend-il?
C'est un point très important. Que faites-vous dans ce cas quand vous êtes l'instructeur? Il faut quand même faire face. Au fait, c'est le numéro 4, parce que nous nous rendons compte que c'est un concept un peu plus difficile, un peu supérieur, mais dont nous ne parlons probablement pas assez. C'est donc une très bonne discussion. Parlons de la question de Sœur Matsumori. Un enfant, un instructeur du séminaire, l'instructeur de 14 ans, ou l'églantine, ils sont probablement plus intéressés qu'ils ne veulent le montrer, mais ils n'agissent pas comme s'ils l'étaient. Que faire alors? Comment faire que quelque chose se produise?
L'apprentissage ne se produit parfois pas dans la salle de classe. Il se produit parfois en dehors. Quand j'étudiais l'Église, les missionnaires m'ont enseigné quelque chose. Une semaine plus tard, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est cela. Donc, nous ne devons pas penser que l'apprentissage doit se produire.
sur le moment.
Sur le moment.
Bien, très bien. Et encore le travail de l'Esprit. Je sais que c'était le travail de l'Esprit du Seigneur opérant en vous depuis une semaine ou je ne sais combien de semaines.
Ça pourrait être plus.
C'est le cas classique d'un ami de l'Église à n'importe quel moment et nous voulons que cet esprit opère en lui pendant des heures et des jours après le départ des missionnaires ou avant qu'il ne revienne pour la leçon suivante. Oui, Sœur Wada.
Puisque Sœur Matsumori a soulevé la question des enfants de la primaire, les enfants ont parfois tellement de questions. Et je prépare beaucoup d'exemples ou d'expériences ou d'aides visuelles. Et je ne peux parfois pas toutes les utiliser parce que je réponds aux questions.
Oui, bien sûr.
Est-ce que c'est bien?
Bien sûr, c'est bien.
J'ai essayé de simplifier les choses. Et si j'arrive à ne me concentrer que sur un sujet, que je peux leur enseigner au moins, ils sont contents.
Oui, bien. Vous l'avez mieux formulé que je ne l'ai fait au début. C'est cela, ne pas essayer d'en faire trop. Avec un enfant de la primaire, peut-être n'importe quel enfant, n'importe lequel d'entre nous, si on ne peut faire passer qu'une idée ou un principe, quelque chose de vrai et d'important que frère Wada ressentira une semaine plus tard, si nous faisons passer une chose, cela vaut probablement toute bonne expérience en classe. Donc, soyez rassurés. Ne soyez pas réticents à ce sujet, frère Cœur.
Il me semble que ce qu'elle vient de dire, qui m'a ouvert les yeux, et qu'il n'y a pas d'ambiance plus passionnante dans une classe que lorsque les enfants ou les adultes posent des questions.
Oui, les gens réagissent.
Ils réfléchissent.
Oui, nous progressons. Et si vous êtes dans la situation où l'élève ne participe pas encore et que le fardeau est pour le moment sur vous, oui, frère Miller.
Devons-nous alors aller de l'avant dans la leçon ou devons-nous nous arrêter et faire quelque chose qui favorise la présence de l'esprit? Même si nous avons déjà eu un cantique d'ouverture, une prière, une pensée spirituelle et qu'il n'y a toujours pas l'esprit, est-ce qu'on doit s'arrêter pour dire, bon, comment pouvons-nous avoir l'esprit?
Qui veut répondre à cela, frère Snow?
Je pense que c'est un processus à long terme. Cela ne se produit pas au premier cours. Je pense qu'il faut parfois faire de son mieux. Et puis il y aura un moment où cela marchera réellement, où l'esprit sera présent et où tout le monde participera. Alors il faudra vous arrêter et dire, voyez-vous ce qui se produit en ce moment? Voyez-vous la différence?
Oui, comment savons-nous que l'esprit était là? Et cela peut être d'une certaine manière la question que pose Frère Miller. Face à cette classe en réaction, comment savoir si je fais bien? Et d'une certaine manière, pour eux et pour vous, l'essentiel est ce que vous ressentez. Ressentez-vous que le Seigneur est avec vous, que le Seigneur vous aime, que vous avez fait de votre mieux, qu'il les aime? Si nous pouvons seulement avoir un peu de sentiment de l'Évangile, si seulement nous aimons, je pense que c'est un début. Et si ces enfants ne réagissent pas, vous ne pouvez peut-être pas encore les instruire, mais vous pouvez les aimer. Et si vous les aimez aujourd'hui, vous pourrez peut-être les instruire demain. Et je pense que nous en avons tout à fait la capacité. Cela ne dépend pas d'eux. Nous pouvons les aimer du début à la fin. Et des miracles se produiront, le genre de miracle dont vous parlez. Si moi, l'instructeur, je veux que vous, l'élève, posez des questions, il se peut que je doive encourager un peu l'action, comme nous l'avons essayé de le faire ici aujourd'hui. Je veux essayer de poser une question qui fera son chemin. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de guider la discussion pour que les élèves participent. Maintenant, je m'arrête pour m'adresser à notre auditoire mondial. Un instructeur peut savoir que Frère Merrill a parlé de ce sujet à la conférence et peut se dire, bien, je vais aller à la bibliothèque de la paroisse ou au centre de documentation, selon le nom que vous lui donnez dans votre région. Je vais aller au centre de documentation, à la bibliothèque, et je vais me procurer cette vidéo. Je peux la passer et je peux montrer le passage avec Frère Merrill. Mais voici ce que je vais expliquer. Je souligne ici que si vous faites cela, c'est bien et nous devons le faire de temps en temps. Nous allons le faire ici. Les aides audiovisuelles sont faites pour ça. Ce sont des aides. Elles ne doivent pas remplacer la leçon. Utilisez-les comme vous utiliseriez des épices en cuisine. Je n'y connais rien en cuisine et je ne suis pas qualifié pour faire ce commentaire. Mais utilisez-les comme des épices pour donner de la saveur, faire ressortir le goût, accentuer, enrichir. Une carte, un tableau, une vidéo, un document clé au tableau sont souvent ce qui fait la différence entre une bonne et une très bonne leçon. Mais personne ne veut un repas composé uniquement d'épices. Alors, je vous en supplie, n'utilisez pas les aides visuelles à l'excès. Elles ne doivent pas remplacer l'instructeur, ni la documentation pour le cours, ni pour remplacer l'Esprit du Seigneur. Mais utilisez-les quand vous en avez besoin. Sir Wada, un dernier commentaire.
Imaginons qu'il y a un enfant qui perturbe vraiment beaucoup la classe de la primaire. Alors, j'essaye d'imaginer que cet enfant est vêtu de blanc et est un ange. Est un esprit du Seigneur. En fin de compte, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et cette intelligence, bien que sa forme soit petite, est venue sur Terre pour apprendre quelque chose. Elle est ici dans un but précis.
Excellent, merci. Merci, merci beaucoup. C'est un bon commentaire.
Ce que je retiens, c'est que parfois, l'instructeur est l'élève et l'élève est l'instructeur.
Presque toujours. Presque toujours. L'instructeur en retire plus que la classe. C'est l'une des joies de l'enseignement. Concluons. Sir Hughes, voulez-vous écrire? En fait, écrivez numéro 5 tout en haut, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons écrire là où il y a de la place. Un mot, témoigner. Et c'est numéro 5. Pouvons-nous conclure ici de la manière dont tous les instructeurs doivent terminer leur cours, à mon avis, à l'église et au foyer, et le faire dans un esprit de témoignage. Depuis de nombreuses années, j'aime l'histoire que Frère Packer a maintes fois racontée sur l'instructeur d'école du dimanche de William E. Barrett. Quand il était jeune, il y avait une bande de chahuteurs et on a appelé un vieux frère danois comme instructeur de leur classe. Cela ne semblait pas vraiment convenir. Il ne parlait pas très bien anglais, avec un fort accent danois. Il était âgé. Il avait de grosses mains de fermier et les jeunes de 15 ans étaient turbulents. Tout pouvait faire croire que cela ne convenait vraiment pas très bien. Mais Frère Barrett disait, et c'est ce que Frère Packer citait, et j'ai entendu Frère Barrett le dire souvent, c'est que cet homme les a instruits en quelque sorte, malgré toutes ces barrières, malgré toutes ces difficultés, cet homme a touché le cœur de ces jeunes chahuteurs de 15 ans et a changé leur vie. Et le témoignage de Frère Barrett était le suivant, nous aurions pu nous réchauffer les mains au feu de sa foi. Tous les élèves méritent au moins cela. Nous ne donnons peut-être pas les leçons les plus élaborées, nous ne sommes peut-être pas les plus compétents en aide visuelle, mais nous pouvons utiliser celles que nous savons utiliser, mais nous pouvons faire profiter tous les élèves du feu de notre foi. Et nous pouvons nous y réchauffer les mains. J'ai été douloureusement déçu au cours des années, et je m'adresse aux 16e membres de notre classe, de voir de merveilleuses leçons, des leçons merveilleuses faites par des instructeurs loyaux et doués qui, à la fin du cours, disent en substance, « Eh bien, c'est fini. Frère Jones, voulez-vous faire la prière ?» Et c'est fini. On ne ferme pas les livres. Pas de regard dans les yeux, juste une minute. Pas de pause pour faire réfléchir et dire où étions-nous et où allons-nous et qu'est-ce que le Seigneur essaye de faire. Rien, dans certains cas. Je suis un peu injuste et j'exagère un peu, mais pour faire passer l'idée, dans certains cas, pas un seul mot sur ce que cela était supposé signifier pour l'élève ou pour l'instructeur. Je peux partir en me disant, je me demande ce qu'il ressent à ce propos. Je me demande ce qu'il en pense, ou ce que cela était supposé signifier pour lui, ou pour moi. Beaucoup d'efforts pour exposer des points de doctrine, des principes, montrer des cartes, des vidéos aux élèves, mais pas un soupçon de témoignage sur ce que cette doctrine ou ce principe signifie pour l'instructeur, celui qui était supposé nous guider, nous diriger et nous accompagner. Comme J. Reuben Clark l'a dit un jour, que votre foi ne soit jamais difficile à détecter. Je répète, que votre foi ne soit jamais difficile à détecter. Ne semez jamais les graines du doute. Évitez de vous mettre en valeur. Évitez la vanité. N'essayez pas d'éblouir tout le monde par votre brio. Éblouissez-les par la lumière de l'Évangile. Ne vous souciez pas de l'endroit où se trouvent les tribus perdues ou les trois néphites. Souciez-vous davantage de l'endroit où sont vos élèves, de ce qu'il y a dans leur cœur, de ce qu'il y a dans leur âme, de la soif, des besoins parfois désespérés de nourriture spirituelle des membres. Instruisez-les et surtout, rendez leur témoignage. Aimez-les. Témoignez du plus profond de votre âme. Ce sera la chose la plus importante à leur dire de toute l'heure. Et cela peut sauver la vie spirituelle de quelqu'un. Dites que vous parlez avec toute l'énergie de votre âme. J'aime beaucoup cette expression. Je veux témoigner avec toute l'énergie de mon âme. Si nous nous y sentons poussés, nous pouvons demander à l'Assemblée ce qu'elle m'a demandé, c'est-à-dire, ne pensez-vous pas que je sais ces choses moi-même? Je cite Alma 5. Il continue, « Je vous témoigne que je sais que ces choses dont j'ai parlé sont vraies. Je vous dis que je sais par moi-même que tout cela est vrai. Je sais que Dieu vit et qu'il nous aime. Je sais que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur et le Rédempteur du monde. Je sais que cette Église est la sienne. Et je sais que l'enseignement est important. Et donc, je sais que les cieux nous aideront si nous enseignons comme nous l'avons décrit ici. Et ce ne sera pas tout, ce ne sera qu'un début. Bienvenue à la recherche du don d'enseigner. Mais en recherchant ce don et en priant pour l'avoir, si nous demandons, cherchons et frappons spirituellement, si nous enseignons en nous appuyant sur les Écritures, si nous enseignons par et selon le Saint-Esprit, si nous aidons les élèves à assumer la responsabilité de l'apprentissage, et si nous témoignons des vérités que nous avons enseignées, Dieu confirmera à notre cœur et à celui de nos élèves le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ici et ailleurs, tout près et partout dans le monde, l'Évangile de Jésus-Christ signifie tout pour moi. Il signifie tout pour moi. Il est toute ma vie. Il est mon espoir, ma sécurité et ma quête du salut. Il est tout ce que je veux pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Ce que je ressens pour l'Évangile, c'est grâce à vous, grâce à des gens comme vous qui ont instruit des gens comme moi. Dans les petites classes de la primaire, dans les premières soirées familiales, dans les collèges de diacres, en mission et partout où nous sommes, quelqu'un comme vous a instruit quelqu'un comme moi. Et je ne suis pas encore ce comme je voudrais être. Je ne suis pas tout à fait ce que je dois être. Mais ce que je vais être, je le dois à de grands instructeurs. En commençant par mes parents bien-aimés et toutes les bonnes personnes qui ont touché ma vie, jusqu'aux merveilleux conseils et collèges dont je fais maintenant partie, où je peux être instruit par la première présidence et le collège des 12, par d'autres autorités générales et par de remarquables dirigeantes auxiliaires, comme vous tous. Je témoigne de l'importance de l'amour. Je témoigne que c'est vrai, et je sais que Dieu nous aime. Et je sais qu'en partie, parce que je vous aime, j'aime l'expérience de l'enseignement, et je prie pour que nous y soyons tous meilleurs au nom de Jésus-Christ. Amen.
And now to continue. Many of the insights and principles expressed in this broadcast are also contained in the teaching manuals of the church, including teaching, No Greater Call. Leaders have a responsibility to teach, whether they're in councils or interviews or worship services. They also have a responsibility to assure that teacher development and effective gospel learning are ongoing in the lives of members. To that end,
à cette fin, la première présidence a publié une lettre datée du 17 novembre 2006 qui met fin au poste de coordonnateur de la formation pédagogique de paroisse et de Pieux. Accompagnée de la lettre d'une liste de responsabilités des dirigeants en matière de perfectionnement des instructeurs. Nous sommes certains qu'avec les principes enseignés dans cette émission et les conseils et documents cités dans la lettre, les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires communiqueront pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage de l'Évangile. Il ne devrait pas être nécessaire de tenir de réunions spéciales de perfectionnement des instructeurs, si ce n'est de temps en temps, si nécessaire, pendant vos conseils et vos entretiens. Nous vous remercions d'avoir assisté à la diffusion de cette formation et nous prions pour qu'elle vous aide à devenir des meilleurs instructeurs et élèves de l'Évangile de Jésus-Christ. Notre dernier orateur sera Frère Thompson, premier conseiller dans la première présidence. Après le président Thompson, la cantique et la prière de clôture auront lieu.
Nous venons d'entendre quelques-uns des plus grands enseignants de l'Église qui nous ont donné des idées formidables sur de nombreux éléments et principes permettant de bien enseigner. Comme il a été dit, nous sommes tous, à certains égards, des instructeurs et nous avons le devoir d'enseigner au mieux de nos capacités. Je vais vous donner quelques exemples de personnes que j'ai connues qui ont influencé ma vie et m'ont enseigné des leçons importantes que je n'ai jamais oubliées. Je pense à l'une de nos autorités générales émérites, Marion D. Hanks, qui a enseigné de manière excellente au séminaire, à l'Institut et dans l'Église en général. Il a utilisé de nombreuses méthodes d'enseignement. Une fois, au cours de la tournée d'une mission, il a eu un entretien avec chacun des missionnaires de la région. J'avais été en service dans une région voisine et l'on me menait à l'aéroport avec Frère Hanks et le président de mission. Frère Hanks a dit au président de mission que cela avait été une véritable bénédiction d'avoir un entretien avec chacun des missionnaires. Il a dit qu'il s'était senti poussé à demander à une sœur missionnaire « Parlez-moi de votre mission, s'il vous plaît, et dites-moi ce que vous pensez de votre appel de sœur missionnaire. » Elle m'a dit que son père était un modeste paysan. Il avait de bon cœur fait beaucoup de sacrifices pour le Seigneur et son royaume. Il avait déjà financé la mission de deux fils. Quand un jour, il avait parlé avec elle du désir inexprimé qu'elle avait d'être missionnaire. Il lui avait expliqué comment le Seigneur l'avait aidé à se préparer à l'aider. Il était allé dans les champs pour parler au Seigneur, pour lui dire qu'il n'avait pas plus de biens matériels à vendre, à sacrifier ou à utiliser comme gage pour emprunter. Il avait besoin de savoir comment il pourrait aider sa fille à faire une mission. Il avait alors reçu l'inspiration de planter des oignons. Il avait pensé qu'il avait mal compris. Les oignons avaient peu de chances de bien pousser sous ce climat. Les autres ne cultivaient pas d'oignons. Lui-même ne connaissait pas la culture des oignons. Après avoir lutté avec le Seigneur quelque temps, il s'était à nouveau senti poussé à planter des oignons. Alors il avait emprunté de l'argent à la banque, acheté des graines, planté, cultivé et prié. Le temps avait été doux. La récolte d'oignons avait été prospère. Il avait vendu sa récolte, payé ses dettes à la banque, au gouvernement et au Seigneur, et mis le reste sur un compte au nom de sa fille. Il y avait suffisamment d'argent pour financer toute sa mission. Frère Hanks a dit alors au président de mission, « Je n'oublierai pas ce récit. » Ni les larmes dans ses yeux, ni dans le son de sa voix, ni ce que j'ai ressenti quand elle a dit « Frère Hanks, je n'ai pas de mal à croire en un Père céleste aimant, qui connaît mes besoins et qui m'aidera selon sa sagesse si je suis suffisamment humble. Frère Hanks enseignait là une leçon des plus importantes. Chaque enfant, dans chaque classe, chaque jeune homme ou jeune fille, chaque élève du séminaire ou de l'institut, chaque adulte des classes de doctrine de l'Évangile, chaque missionnaire, oui, chacun de nous, a une histoire qui attend d'être racontée. L'écoute est un élément essentiel quand nous enseignons et apprenons. J'ai eu l'expérience dans mon enfance d'être sous l'influence d'une instructrice des plus efficaces et les plus inspirées, qui nous écoutait et nous aimait. Elle s'appelait Lucy Gertsch. Dans ton école d'école du dimanche, elle nous a enseigné la création du monde, la chute d'Adam, le sacrifice expiatoire de Jésus. Elle a mené dans sa classe, comme invité d'honneur, Moïse, Josué, Pierre, Thomas, Paul, et bien sûr le Christ. Nous ne les avons pas vus, mais nous avons appris à les aimer, les honorer et à suivre leur exemple. Son enseignement n'a jamais été aussi fort, ni son impact aussi durable, qu'un dimanche matin, quand elle nous a tristement annoncé le décès de la mère d'un élève de notre classe. Billy nous avait manqué ce matin-là, mais nous ne connaissions pas la raison de son absence. Le thème de la leçon était « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Au milieu de la leçon, notre instructrice a fermé le manuel et a ouvert nos yeux, nos oreilles et notre cœur à la gloire de Dieu. Elle a demandé « Combien d'argent avons-nous pour la fête de notre classe ?» Les difficultés financières de la Grande Dépression nous ont poussé à répondre fièrement « $4.75 ». Alors, avec une extrême douceur, elle a suggéré, la famille de Billy est dans le besoin et endeuillée. Que penseriez-vous d'aller voir cette famille ce matin et de lui donner l'argent de notre fête, l'argent que nous avons économisé? Toute ma vie, je me souviendrai du petit groupe qui s'est rendu à trois rues de là, est entré chez Billy, et les a salués, lui, son frère, ses sœurs et son père. L'absence de sa mère se faisait sentir. Je me souviendrai toujours avec émotion des larmes qui brillaient dans les yeux de tous quand l'enveloppe blanche contenant l'argent précieux de notre fête est passée de la main délicate de notre instructrice à celle du père nécessiteux et endeuillé. Nous marchions allègrement en venant à l'église. Nous avions le cœur plus léger que jamais. Notre joie était plus pleine. Notre compréhension plus profonde. Une instructrice inspirée de Dieu avait enseigné à ses garçons, à ses filles, une leçon éternelle de vérité divine. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous aurions pu paraphraser les paroles des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand on nous expliquait les Écritures? Lucy Gertsch connaissait chacun de ses élèves. Elle rendait immanquablement visite à ceux qui manquaient un dimanche ou qui ne venaient pas. Nous savions qu'elle se souciait de nous. Aucun de nous ne l'a jamais oubliée, ni les leçons qu'elle a enseignées. De nombreuses années plus tard, quand Lucy était près de la fin de sa vie, je lui ai rendu visite. Nous nous sommes souvenus de ces jours lointains où elle avait été notre instructrice. Nous avons parlé de chacun des membres de notre classe et de ce qu'il devenait. Son amour et son attention ont duré toute sa vie. Une autre instructrice inspirée dans ma vie a été Emma Bullwinkle, membre du bureau de la primaire de notre pieu. Elle insistait constamment sur l'importance d'apprendre les articles de foi. En fait, nous ne pouvions pas quitter la primaire sans avoir réussi à ressusciter chaque article de foi. Quelque chose de difficile pour des jeunes garçons turbulents. Mais nous persévérions et réussissions. Le résultat est que j'étais capable, tout au long de ma vie, de réciter les articles de foi. Pendant de nombreuses années, au sein du Collège des Apôtres, j'ai été responsable de l'Allemagne de l'Est, aussi connue sous le nom de République démocratique allemande. Dans cette tâche, ma connaissance des articles de foi a été des plus utiles. À chacune de mes visites, tout au cours des 20 années, où j'ai supervisé cette région, j'ai toujours rappelé à nos membres de là-bas le 12e article de foi. Nous croyons que nous devons nous soumettre au roi, au président, au gouverneur et aux magistrats, et que nous respecter, honorer et défendre la loi. Nos réunions derrière ce qu'on appelait le rideau de fer étaient toujours surveillées par le gouvernement communiste du pays. Au début des années 1980, nous avons demandé aux autorités l'autorisation de construire un temple, et plus tard, d'envoyer des jeunes gens et des jeunes filles de la région en mission dans le monde, et que d'autres viennent en mission dans leur pays, elles ont écouté, puis m'ont répondu, « Monsieur Monson, cela fait 20 ans que nous vous observons, et nous savons que nous pouvons vous faire confiance, à vous et à votre Église, parce que nous savons que vous et votre Église enseignez à vos membres à obéir aux lois de notre pays. » Voici un autre exemple de l'importance d'apprendre les articles de foi. Il y a 45 ans, je travaillais avec un homme du nom de Sherman Hummel, dans le domaine de l'imprimerie à Salt Lake City. Un jour, je l'ai accompagné chez lui après le travail, et je lui ai demandé comment il avait reçu son témoignage de l'Évangile. Il m'a répondu, « C'est intéressant, Tom, quand tu me poses cette question. » Car cette semaine, avec ma femme et mes enfants, nous allons au temple de Manti pour être scellés pour l'éternité. Il ajoutait, nous habitions dans l'Est des États-Unis. Je faisais le voyage en autocar jusqu'à San Francisco, pour aller y travailler dans une imprimerie. Puis j'allais faire venir ma femme et mes enfants. Le voyage entre New York et Salt Lake City s'est passé sans événement marquant. Mais à Salt Lake City, une petite fille est montée dans le car, une fillette de la primaire, et s'est assise à côté de moi. Elle allait à Reno, au Nevada, pour rendre visite à sa tante. Alors que nous roulions vers l'ouest, je remarque une affiche. Allez à l'école du dimanche mormone cette semaine. Je dis à la petite fille, j'imagine qu'il y a beaucoup de mormons en Utah, n'est-ce pas? Elle a répondu, oui, monsieur. Je lui ai dit, « Es-tu mormone ?» Elle nous a répondu, « Oui, monsieur. » Sherman Hummel lui a ensuite demandé, « À quoi croire les mormons ?» Et cette petite fille a récité le premier article de foi, puis elle a commenté. Ensuite, elle lui a récité le deuxième article de foi et l'a commenté. Puis elle lui a récité le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et tous les articles de foi et puis a commencé à commenter chacun d'eux. Elle les connaissait les uns après les autres. Sherman Hummel a dit, quand nous sommes arrivés à Reno, que cette petite fille a été accueillie par sa tante, j'étais profondément impressionné. Il a dit, tout le chemin jusqu'à San Francisco, j'ai pensé, qu'est-ce qui pousse cette petite fille à si bien connaître sa doctrine? Quand je suis arrivé à San Francisco, la toute première chose que j'ai faite a été de chercher l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans l'annuaire téléphonique. J'ai appelé le président de mission, il a envoyé deux missionnaires où je logeais. Je suis devenu membre de l'Église, ma femme aussi. Tous nos enfants sont devenus membres, en partie parce qu'une fillette de la primaire connaissait ses articles de foi. Fin de citation. Je pense aux paroles de l'apôtre Paul, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Il y a juste 3 mois, les Hummel sont venus à Salt Lake City pour le mariage de leur fille Marianne. Ils sont venus à mon bureau. Ils nous ont passé un merveilleux moment. Les six filles sont venues avec 4 gendres et 12 petits-enfants. Toute la famille était restée pratiquante dans l'église. Chacune des filles est allée au temple. D'innombrables personnes ont été amenées à la connaissance de l'Évangile par les membres de cette famille. Tout cela parce qu'une fillette avait appris les articles de foi et avait eu la capacité et le courage de proclamer la vérité à quelqu'un qui cherchait la lumière de l'Évangile. J'aime l'injonction du Seigneur qui se trouve dans la 88e section de Doctrine et Alliance. Je cite, « Je vous donne le commandement de vous enseigner les uns aux autres la doctrine du royaume. Enseignez diligemment, et ma grâce vous accompagnera. » Il y a de nombreuses années, j'allais en avion remplir une tâche dans le sud de la Californie. Une jolie jeune femme s'est assise sur le siège vide à côté de moi. Elle s'est mise à lire un livre. Comme j'ai tendance à le faire, j'ai jeté un coup d'œil au titre. Une œuvre merveilleuse, un prodige. Je lui ai dit, « Oh, vous devez être mormone. » Elle a répondu, « Oh non. Pourquoi cette question ?» J'ai répondu, « Parce que vous lisez un livre écrit par un membre bien connu de l'Église de Jésus-Christ, les Saints des derniers jours. » Elle a dit, « C'est vrai ?» Un ami m'a donné ce livre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Toutefois, il a veillé ma curiosité. Alors je me suis demandé, dois-je continuer et parler de l'Église? Et les paroles de l'apôtre Pierre me sont venues à l'esprit. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je me suis dit que c'était le moment où je devais rendre mon témoignage. Je lui ai dit que j'avais eu la chance, des années auparavant, d'aider Frère Richards en imprimant une œuvre merveilleuse et un prodige. Je lui ai parlé de ce grand homme. Je lui ai parlé des nombreux milliers de personnes qui avaient accepté la vérité après avoir vu ce qu'il avait préparé. Puis j'ai eu le bonheur, pendant tout le vol jusqu'à Los Angeles, de répondre à ses questions sur l'Église, des questions intelligentes qui venaient d'un cœur cherchant la vérité. Je lui ai demandé si je pouvais prendre des dispositions pour que deux sœurs missionnaires lui rendent visite. Je lui ai demandé si elle aimerait aller à notre branche à San Francisco, où elle habitait. Elle a répondu oui. De retour chez moi, j'ai écrit à Irvin J. Derrick, président du Pieux de San Francisco, et je lui ai donné ses renseignements. Imaginez mon bonheur quand, quelques mois plus tard, j'ai eu un appel du président Derrick qui disait, « Frère Monson, j'appelle au sujet d'Yvonne Ramirez, hôtesse de l'air en repos, qui était assise à côté de vous lors d'un vol vers Los Angeles. Une jeune femme à qui vous avez dit que ce n'était pas une coïncidence si vous étiez assis à côté d'elle alors qu'elle lisait une œuvre merveilleuse, un prodige. Frère Monson, elle vient de devenir le membre le plus récent de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Elle aimerait vous parler et vous exprimer sa reconnaissance. Bien sûr, j'étais ravi. C'était un merveilleux coup de téléphone. Comme exemple de maître pédagogue, il y a eu David O'Mackay, qui m'a appelé à être membre du Collège des Douze Apôtres. Il enseignait avec amour et avec sensibilité. Il était l'exemple même de ce qu'il enseignait. Il était gentil et aimable. Il enseignait la vérité à la manière du Sauveur, un instructeur. J'ai remarqué cela quand, un jour, bien avant d'être autorité générale, je suis entré dans son bureau pour examiner les épreuves pour l'impression. Ce jour-là, j'ai remarqué un tableau au mur. Et je lui ai dit, « Président Mackay, c'est un beau tableau. Est-ce qu'il représente la maison de votre enfance, Huntsville ?» Il s'est calé dans son fauteuil, a eu le petit rire bien connu de David O'Mackay, et a dit, « Je vais vous raconter l'histoire de ce tableau. Une gentille dame est venue me voir un jour d'automne, m'a donné ce beau tableau, encadré et prêt à être mis sur le mur. Elle m'a dit, « Président Mackay, j'ai passé beaucoup de temps cet été à faire ce tableau de la maison de vos ancêtres. » Il a dit qu'il avait accepté le cadeau et avait chaleureusement remercié la sœur. Il m'a dit, Savez-vous, frère Monson, que cette chère dame s'est trompée de maison? Elle a peint la maison d'à côté. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire qu'elle s'était trompée de maison. Puis il a fait ce commentaire. Et c'est une leçon essentielle pour chacun de nous. Il a dit, en réalité, frère Monson, elle a peint la bonne maison pour moi. Parce que lorsque j'étais petit garçon, je m'allongeais sur le lit qui était sous le porche de la maison de mes ancêtres. La vue que j'avais depuis ce porche, c'est la maison qu'elle a peinte. Elle a peint ce qui est la bonne maison pour moi. Certaines meilleures leçons de la vie nous viennent de nos parents. Les miens m'ont enseigné des leçons précieuses pendant mon enfance. Ces leçons ont souvent un rapport avec le service aux autres. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. L'un d'eux est l'attente du déjeuner dominical. Alors que nous, les enfants, au bord de ce que nous pensions être l'inanition, étions assis à table, impatients, l'odeur du roast beef remplissant la pièce. Ma mère me disait, « Tommy, avant qu'on mange, va porter cette assiette que je préparais pour le vieux Bob au bout de la rue. Dépêche-toi de rentrer. » Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi nous ne pouvions pas manger d'abord et aller porter l'assiette de nourriture ensuite. Je n'ai jamais posé la question. Je courais chez Bob et j'attendais impatiemment que les jambes fatiguées de Bob finissent par l'amener à la porte. Puis je lui tendais l'assiette de nourriture. Il me donnait l'assiette propre du dimanche précédent. Il me tendait une pièce de 10 cents pour me payer de mon service. La réponse était toujours la même. Je ne peux pas accepter d'argent. Ma mère me donnerait une correction. Il passait alors sa main ridée dans mes cheveux blonds et disait, « Mon garçon, tu as une mère merveilleuse. Dis-lui merci. » Je me souviens aussi que ce déjeuner dominical semblait toujours avoir meilleur goût lorsque je revenais de cette tâche. Le père de ma mère, le grand-père Thomas Candy, m'a aussi enseigné une très grande leçon avec ce même vieux Bob qui est entré dans notre vie de manière intéressante. Il était veuf et avait dans les 80 ans que la maison dans laquelle il louait une chambre allait être démolie. Je l'ai entendu parler de son problème à mon grand-père alors que nous étions tous les trois assis sur la balancelle du vieux porche de chez mon grand-père. D'une voix plaintive, il a dit à grand-père, « Monsieur Condy, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de famille. Je n'ai nulle part où aller. J'ai peu d'argent. » Je me demandais ce que grand-père allait répondre. Nous avons continué de nous balancer, puis grand-père a lentement mis la main dans sa poche et a pris un vieux porte-monnaie de cuir, duquel, en réponse à mes demandes insistantes, il avait souvent sorti une pièce pour une friandise. Cette fois, il en a sorti une clé et l'a tendue au vieux Bob. Il a dit tendrement, « Bob, c'est la clé de cette maison que je possède à côté. » Prenez-la. Installez-y vos affaires. Restez-y aussi longtemps que vous voulez. Il n'y aura pas de loyer à payer et personne ne me mettra plus jamais dehors. Les yeux du vieux Bob se sont remplis de larmes qui ont coulé sur ses joues avant de disparaître dans sa longue barbe blanche. Les yeux de grand-père aussi étaient humides. Je n'ai pas dit un mot, mais ce jour-là, mon grand-père encore grandit à mes yeux. J'étais fier de porter son prénom. Je n'étais alors qu'un enfant. Mais cette leçon a eu une très grande influence sur moi. Ce sont là que quelques-unes des leçons que j'ai apprises des gens qui ont influencé ma vie et m'ont instruit. Et je répète que nous sommes tous des instructeurs. Nous devons toujours nous souvenir que nous enseignons non seulement avec des mots, mais aussi parce que nous sommes et par la manière dont nous vivons. En instruisant, puissions-nous suivre l'exemple de l'instructeur parfait, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a laissé la trace de ses pas sur le sable. mais il a laissé ses principes d'enseignement dans le cœur et la vie de tous les gens qu'il a instruits. Il a instruit ses disciples de l'époque et nous dit la même chose à nous. Suivez-moi. Puissions-nous aller de l'avant avec obéissance, afin qu'il puisse être dit de chacun de nous, comme il a été dit du Rédempteur, tu es un instructeur venu de Dieu. Je prie pour qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.